Alors, nous poursuivons encore ce soir notre étude de la quatrième béatitude, celle des assoiffés de justice. C'est dans le cadre de cette quatrième béatitude que vous introduisez, je crois, le tandem Eros, Ethos, Agapé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes un peu exotiques, d'abord, et ensuite, s'il vous plaît, leur rapport avec les assoiffés de justice à qui on promet qu'ils seront rassasiés?
Ah, ça, c'est tout un programme. Évidemment, nous, on va prendre le temps qu'on va pouvoir, mais ça, c'est toute une histoire, parce que notre culture est centrée sur la culture du corps, justement, il faut le dire, et le sens du corps et le sens de l'esprit et l'intégration de tout ça dans leur mouvement de croissance et d'orientation et de réalisation, d'accomplissement. Alors, c'est de tout ça que cette béatitude-là nous parlait. Et c'est pour ça que pour faire un joint, aujourd'hui, on parle de joint, on fume des joints, on parle de conjoint, on est comme dans une période où il faut faire des joints, c'est comme si on était disjoint. Eh bien, je crois que c'est assez juste. Nous avons à refaire d'une façon merveilleuse et nouvelle, je dirais, à notre siècle, une récupération et de l'intégration. Je dirais de tout ce que nous sommes, corps et âme et chair et esprit, ce qu'on appelait nature et grâce, qu'on peut encore appeler comme ça aussi évidemment, c'est-à-dire que l'homme a une destinée aussi grande que la vie divine elle-même, mais ça part de bas. On le sait, quand on vient au monde, on part d'une petite cellule qui est à peu près 84 millièmes de millimètre, les deux unis ensemble à part de ça, alors ça part pas gros. Alors, Saint Paul, lui, il parle de corps physique, de corps psychique, de corps pneumatologique ou spirituel. Alors, c'est comme si on était un peu une fusée à trois étages, pour prendre une comparaison. Et avant d'aller en orbite, c'est pas évident. Alors, la première fusée, ou si on veut la fusée, la première étage, qui est une étage de départ, c'est une étage biologique, physique, de nos cellules, où le principe de base, c'est le principe, c'est le plaisir et la douleur qui nous guident. Le plaisir étant un moyen pour nous dire que la route semble bonne et la douleur nous disant qu'une loi physique est violée. Et ça, habituellement, on peut appeler ça l'éros, c'est-à-dire la fête des cellules. Et ça, c'est bon, c'est une grâce déjà que de jouir de ce qui est bon dans la nature, parce que dans la nature, tout est fait pour nous. Et nous avons des organes, des puissances pour bénéficier de ça, on appelle ça les cinq sens. Mais ça peut aller loin, ça va jusqu'à Dieu, ça. Alors, on pourrait dire que la première étape, le premier étage, c'est le plaisir. Mais pour faire le joint tout de suite, pour ne pas se perdre en cours de route, on dit que la béatitude, c'est la béatitude de faim et soif de justice. Mais n'oublions pas que nous avons dit et que nous le redisons, c'est la béatitude de la sainteté aussi. Parce que, selon la Bible, il y a la justice extérieure, la justice physique, la justice, le respect de nos droits en tant que possédant des biens, et ensuite le droit de l'intégrité de la personne, tout ça. Ça, on peut appeler ça de la justice pure et simple, on appelle ça les droits de la personne aujourd'hui, ce qui est déjà le fond de l'Évangile, un point de départ fantastique, mais ça va plus loin que ça, ça va à l'amour, c'est-à-dire à la justice intérieure, c'est-à-dire à la sainteté, c'est-à-dire à ce qu'on avait appelé la tzedaka, c'est-à-dire la cohérence parfaite entre deux personnes, la communion parfaite et totale, où chacun habite dans l'autre en étant connu, reconnu, en connaissant l'autre. Alors, vous voyez, là, on dit, ça n'existe pas. Oui, ça existe en Dieu. Et justement, nous avons à vivre cette trajectoire qui se rend jusqu'à Dieu, même à partir de l'éros. L'éros, il nous le faut. C'est un peu comme notre puits de pétrole, la rampe de lancement. C'est l'énergie. Tout notre corps est la source de notre énergie, de nos forces. Alors, c'est bien marqué dans Deutéronome 10:5, Lévitique 19:18, qu'on doit aimer Dieu de toutes ses forces. Ensuite, de toute son âme, de tout son esprit. Le deuxième étage, on prendra un exemple tantôt pour clarifier ça. Le deuxième étage, on appelle ça l'éthos, c'est-à-dire l'éthique, ce qu'on appelle des fois la morale, le bien, le bon, mais entre les personnes. Là, c'est comme la communion entre les personnes elles-mêmes. Là, c'est l'amour humain pour la personne. Évidemment, en passant par le corps encore, mais pour arriver à une communion d'âme, d'esprit. Et de là, du plaisir et de la douleur, on passe de la communion à la souffrance et de la souffrance à la libération pour arriver à la joie. Mais déjà, on a de l'esprit là-dedans. Autrement dit, il s'agit d'un éros transfiguré déjà en un éthos, c'est-à-dire un amour durable. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'éros, c'est une passion aussi au départ. Alors, on marche, on commence. Une passion, c'est, ça commence, ça dure, puis ça arrête. Par exemple, je commence à manger une tarte au bleuet, ça dure, puis ensuite ça arrête. Si je continue, elle va ressortir. Alors, il faut que ça arrête une passion. Mais quand ça devient orienté par le cœur et dans le cœur vers une autre personne, là, cette passion-là se transforme et ça dure. Et là, ben, au fond, ça devient une vertu.
Elle risque de devenir plus permanente.
Elle est permanente à ce moment-là. Et c'est ce qui fait le bonheur durable. C'est d'un niveau, on appelle ça de la vertu, c'est-à-dire une relation, un lien qui devient indestructible. Comme par exemple, comme quand on a bien compris quelque chose, on ne peut plus le décomprendre. C'est fait. Alors, quand on est passé de l'éros à l'éthos, on a de l'amour, là. Mais ça, c'est encore rien que la deuxième fusée du lancement. Il y en a une troisième. C'est l'agapé. Alors, de l'éros à l'éthos, au fond, un mouvement de transfiguration s'opère pour arriver à l'agapé, c'est-à-dire à cet infini qu'on désire tant, qui est Dieu. Alors, on voit, là, qu'en passant d'une pomme, on peut arriver à manger une pomme avec quelqu'un. Et de ce quelqu'un, on peut même communier à Dieu, parce que entre deux personnes qui s'aiment, c'est Dieu qui est présent. Entre deux regards, c'est le regard de Dieu qui permet qu'on se regarde et qu'on s'aime, qu'on se connaisse. Alors ça, c'est l'agapé, c'est un amour tellement grand qu'on veut souffrir avec l'être aimé s'il souffre, on veut souffrir pour lui même s'il est mal pris, c'est l'amour de miséricorde. Alors l'agapé, au fond, c'est un amour. Ce qui est le plus profond, c'est l'amour de miséricorde.
Alors on a transcendé à ce moment-là la dimension humaine et la dimension physique, dis-je, et la dimension psychique,
et on arrive à la dimension spirituelle et pneumatologique, oui.
Monsieur Truchon, pourquoi la sexualité humaine est-elle nécessaire à la compréhension de cet éros dont vous parlez?
Oui, parce que d'abord, la sexualité, il faut la distinguer de la génitalité. La sexualité, elle va partout, elle va même en liturgie, et on a besoin de la génitalité pour se reproduire. Alors, pour reprendre ces trois étages que nous avions parlé, on pourrait prendre trois autres mots qui peuvent nous éclairer aussi. La génitalité, ça, c'est se reproduire. La sexualité, c'est ce modèle masculin et féminin qu'on reproduit partout et qui est unitaire. Au fond, nous sommes les deux sexes en un sens. Au plan psychologique, on a à le devenir jusqu'à un certain point parce que on vient au monde d'un père et d'une mère. Donc, on a les deux modèles en nous à développer, même si un est avantagé si on a un sexe génital d'un côté. Et finalement, on arrive avec Aristie. Alors, ce qui arrive avec ça, là. Génitalité, au fond... génitalité et sexualité. La génitalité, elle, c'est le point de départ de l'énergie. C'est comme une mère, ça. C'est aussi puissant qu'une mère. Évidemment, la mère, là, je parle de la mère là, sur les bateaux, pour les bateaux, là. Alors, la mère peut être, à un moment donné, enragée, elle peut être furieuse, elle peut être même dangereuse parce qu'elle est puissante. Alors, cette génitalité-là en nous, cette puissance-là est extraordinaire. Elle est une énergie cosmique fantastique. Et quand on en use, d'ailleurs, on a l'impression d'une union cosmique. On aime les fleurs, on aime les maringouins, on aime tout là-dedans. Seulement que quand on reste à ce niveau-là, on est au niveau d'une fusion. c'est que les structures du moi disparaissent, et quand ça réapparaît, ben lundi matin, ben faut aller travailler. Mais si on passe à la sexualité, c'est-à-dire à la personne elle-même qui porte cette génitalité, parce qu'au fond, on n'est pas un organe, on est un système, on est même une personne. Alors, si on arrive à la sexualité, là, à ce moment-là, il commence à y avoir un partage de l'un à l'autre qui fait que s'il n'y a pas de partage, ça n'a plus de sens.
C'est ça, la sexualité devient...
Ça devient une communion, là, déjà.
Devient un cul-de-sac si elle n'a pas de communication.
La génitalité, oui. La génitalité, s'il n'y a pas de communication, elle devient un cul-de-sac. Mais si elle devient sexualisée, c'est-à-dire passant par une relation entre hommes et femmes qui se respectent comme personnes, on arrive déjà à l'éthos, là. Et finalement, quand il y a une gratuité pure envers la personne, nous sommes rendus au troisième étage. Une gratuité pure de telle sorte que, sans même pratique immédiate de génitalité ou de sexualité au sens très strict, on peut quand même rester ensemble en communiant sur des valeurs profondes. Au fond, si on reprenait ça encore d'un autre modèle, quand on est adolescent, on aime toutes les femmes, on aime l'amour finalement. On aime toutes les femmes parce qu'au fond, on n'en aime vraiment aucune.
Oui, on dit souvent que les adolescents, effectivement, sont en amour avec l'amour.
Oui, c'est ça. Ils sont pas encore... ils cherchent la femme et ils aiment la femme. Mais en fait, le deuxième stade, c'est d'arriver à aimer une femme. Puis là, quand tu l'aimes vraiment, t'as ton voyage. Autrement dit, c'est tout un pays, une femme. Alors là, t'aimes une femme, puis tu veux une exclusivité, puis en fait, tu partages d'une certaine façon exclusive. Même ton langage, on invente des mots précis pour le couple qu'on n'emploie pas avec d'autres et le reste. Mais arrive une troisième étape qui est la tendresse. Là, on réaime encore toutes les femmes, mais à un autre niveau. Alors, la génitalité était transformée en sexualité, la sexualité était transformée, je dirais, en agapé, et là, on communie avec toutes les femmes et avec tous les hommes aussi. Parce que là, le sexe, à ce moment-là, là, il devient comme universel, il est uni, il est intégré l'un dans l'autre. Alors, on aime autant les hommes que les femmes, quoique on a toujours un petit penchant pour la complémentarité un peu au niveau génital.
Mais la dimension strictement sexuelle s'est estompée.
Elle n'est pas estompée. Elle est encore présente, mais transfigurée sous forme de d'autres modes de communication, comme par exemple voir une feuille d'automne ensemble quand on a 70 ans. On peut voir la feuille tomber puis avoir une grande jouissance. Maintenant, toutes les rats, c'est là-dedans. Toutes les tas, c'est là-dedans aussi. La sexualité est toute là-dedans. Seulement que c'est devenu tellement un partage, je dirais, spiritualisé, pas dans le sens de déformé ni dans le sens d'abstrait, mais dans le sens de communionnel. De ce qui est plus fondamental dans l'humain. Parce qu'il y a encore plus fondamental que le génital dans l'humain, c'est l'affectif.
Quel est le terme que vous préférez employer pour traduire, selon vous, là, qui serait le plus adéquat pour traduire agapé?
Bon, c'est l'Eucharistie, c'est le Christ sur la croix qui meurt pour nous autres, content de le faire pour nous donner la résurrection. Alors, prenons une pomme, par exemple. Bon, la nourriture et le sexe sont deux fonctions qui fabrique des unions très intimes. Par exemple, la mère dit à son petit bébé, elle dit « Je t'aime tellement que je te mangerai. » Elle ne peut pas le manger. Mais voyez-vous, elle prend un exemple de nourriture. Parce que quand tu manges une pomme, trouve la pomme après si tu es capable. Alors, elle est tellement unie à toi, la pomme, elle est tellement en toi, que tu n'es plus capable de trouver. C'est une union très intime. Le sexe aussi fait ce genre d'union. Alors, le Christ, lui, se donne sous forme de nourriture pour nous montrer jusqu'où il veut une unité avec nous. Alors là, on n'est plus dans génitalité avec le Christ, on n'est plus dans sexualité, on est avec le Christ ressuscité. On est dans quoi? On est dans l'agapé.
On est passé à l'agapé.
Oui, l'agapé, c'est fêter ensemble la présence qu'on partage.
Alors, c'est un saut gigantesque là, entre la génitalité, la sexualité et l'Eucharistie.
C'est le troisième étage de la fusée. On est en orbite, au fond, mais je ne veux pas dire qu'on a quitté la Terre. Au contraire, on voit la Terre telle qu'elle est, avec une distance qu'on peut appeler la chasteté, parce que finalement, rendu à 70 ans, on peut encore faire l'amour génital ou sexuel, mais évidemment, ce qu'on tend, c'est la présence. C'est la présence.
Monsieur Truchon, dans vos écrits, vous élaborez longuement sur la notion de justice de Dieu, la justice de Dieu, et je me posais cette question, à savoir, oui, mais quel rapport est-ce qu'il y a entre la justice de Dieu, qui est nécessairement parfaite, et celle de l'homme? Je crois avoir finalement trouvé un élément de réponse dans ces lignes que vous écrivez. La justice de Dieu ne peut se ramener à l'exercice d'un jugement. Elle est avant tout miséricordieuse fidélité à une volonté de salut. Elle crée en l'homme la justice qu'elle exige de lui. Autrement dit, Dieu la transplante dans l'homme, la justice qu'il espère voir croître dans l'homme.
Ouais, là, vous venez de faire un peu le résumé de la foi chrétienne, qui au fond, Dieu a l'initiative en tout et il donne tout, et nous lui redonnons ses dons. Comme le Verbe se redonne au Père, mais il vient déjà de lui, mais le Père est bien content de le reprendre en retour, parce que là, c'est son Fils qui se donne à lui. Alors, c'est comme la mère qui nourrit son enfant, évidemment, elle y donne tout, mais elle aime bien, elle attend le sourire de l'enfant quand même, mais elle est toute transformée devant le sourire de son enfant. Alors ça, c'est comme la réussite de l'amour captatif qui est devenu oblatif, c'est-à-dire de se donner pour que l'autre existe, pour qu'au fond, lui aussi arrive à se redonner. Alors là, c'est la communion, c'est le parcours complet. Donc la justice que Dieu attend de nous, c'est la miséricorde. Pourquoi? Parce que la justice parfaite, c'est l'amour complet. Et l'amour complet, c'est toujours l'amour qui prend la personne au complet, et non pas simplement quand elle va bien, ou encore quand elle n'a pas de trouble. Quand on aime quelqu'un, c'est comme, je dirais pas qu'une femme là, ou un homme, c'est comme un char, mais on le prend au complet.
Monsieur Truchon, vous reprenez souvent l'expression « être justifié en Jésus-Christ ». Pourquoi donc est-ce qu'on doit être justifié? De quoi est-ce que Dieu veut nous justifier?
Être justifié. Ça veut dire être remis sur les patins, c'est-à-dire retrouver les vraies lois de notre fonctionnement et nous réaliser tels que, au fond, nous avions été pensés, désirés. Et c'est ça qui nous rend heureux, parce qu'à ce moment-là, toutes nos puissances sont accomplies. Alors, je prendrais l'exemple encore du poisson dans l'eau. Il n'est pas justifié en dehors de l'eau, parce que je te dis que ça va mal. Alors, quand on n'est pas justifié, ça va mal, puis quand on est justifié, ça va bien. Quand on est justifié, on est heureux, puis quand on ne l'est pas, on est malheureux. Alors, qu'est-ce qui nous justifie? C'est la présence de l'être aimé pour lequel on est fait. Autrement dit, c'est plus que la justice extérieure, c'est la justice totale, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous analysons, en compagnie de M. Raymond Truchon, la très grande question des béatitudes de la Bible. Nous en sommes à la quatrième béatitude. Donc, M. Truchon, je crois que vous voulez nous donner un exemple de ce qu'est la justification en Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire du parcours complet que nous avons à faire de la naissance à la résurrection. C'est pas qu'un petit parcours, et de voir un peu le processus de ça. Je prendrais un peu, alors on parlait d'Eros, d'Éthos et d'Agapé, c'est-à-dire d'une transfiguration de toutes nos puissances physiques, de nos puissances psychologiques et de nos puissances spirituelles en facteurs de réalisation de présence et d'offrande à l'être aimé. Alors tout ça, comment ça se passe? Ben, je prendrais l'exemple, prenons par exemple une danseuse, bon. Alors, une danseuse. Mettons que, je ne veux pas condamner là, ceux qui dansent pour de l'argent, là, ça peut être pour se nourrir, mais on voit tout de suite qu'à ce moment-là, on est au niveau d'une nécessité. On est un aspect de nécessité, il faut manger, il faut nourrir son enfant, bon, en tout cas. Alors, la danse, mettons que la danse est faite pour l'argent, À ce moment-là, on va voir chez la danseuse, elle va exprimer au fond ce qui l'anime. Et finalement, on peut être tenté de voir un objet plutôt que l'art dans cette danse à ce moment-là. Parce qu'elle ne sera pas animée spirituellement. Elle n'aura pas quelque chose d'intérieur qui l'habite et qu'elle essaye d'exprimer. Il ne faut pas oublier que selon la Bible, le corps, bien sûr, en un certain sens, c'est un objet, mais on peut le transporter, c'est correct, mais un corps, en fait, c'est un moyen d'expression du cœur, de l'esprit, pour arriver à une présence, une communion, une offrande. Alors, si maintenant on danse pour la beauté de la musique, par exemple, mettons une danseuse, là, elle danse, mais en écoutant la musique, en aimant beaucoup la musique, on dirait qu'elle change, la danseuse. Physiquement, peut-être ses vêtements changeront pas, peut-être son pas, mais c'est comme quelqu'un qui jouerait mécaniquement d'un morceau de musique, puis l'autre, lui, qui est habité par un esprit en l'écoutant. Alors là, on arrive à l'art, c'est-à-dire à la beauté. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être là le passage de ce qu'on pourrait appeler pornographie à beauté, là. C'est-à-dire que c'est tout le sens. C'est pas tellement une question de pouce de vêtements. C'est pas ça du tout. C'est à quoi ça fait penser, à quoi ça te porte. Si ça te porte uniquement un mouvement physique, ben, on est dans le commerce quasiment. Mais si ça te porte à la beauté, l'offrande commence. On commence à atteindre la personne. Et là, il y a une communion. Et là, le même corps devient un langage différent.
C'est l'éthos dont vous parliez tout à l'heure.
Ça, c'est l'éthos. Et maintenant, mettons que la personne, elle communie à Dieu, elle fait une expérience de Dieu, elle va encore danser autrement. Il va y avoir de l'infini un peu d'exprimer dans cette danse-là, un peu comme dans la musique aussi d'ailleurs. Et là, on arrive à David qui dansait devant l'arche. Il était peut-être rien qu'avec un pagne, David, quand il dansait devant l'arche. En tout cas, c'est ce qu'on a dit dans l'Écriture. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que il dansait devant l'arche, peut-être la communauté assistait à ça. Il était en émerveillement devant Dieu, probablement qu'il avait vu, il avait vécu une expérience importante. Et justement, si on a le temps, on en reparlera de David un peu sous cet aspect d'Eros, Ethos, Agapé, parce que la vie de David, ça n'a pas toujours été ni parfait ni rose.
On parle du roi David.
Du roi David.
Monsieur Truchon, je constate, et ce n'est pas nouveau, que les béatitudes constituent une série de contradictions, de dichotomies, de paradoxes, selon l'expression que vous préférez, je pense.
Oui.
Au sujet de la béatitude des assoiffés de justice, par exemple, on voit donc que Dieu assouvira progressivement cette faim et cette soif de justice, mais évidemment, il y a un préalable. Il faut d'abord l'avoir éprouvée, cette soif. Il faut déjà en souffrir.
Là encore, il n'y a pas de prérequis à la grâce de Dieu. Ça, il faut tout le temps se mettre ça dans la tête, que Dieu nous aime en toutes circonstances. Il n'y a pas de prérequis à son amour. Alors, est-ce qu'il faut désirer cette soif pour qu'elle soit assouvie? Ben justement, c'est là un des rôles de la prédication, des sacrements, de la communauté chrétienne, d'orienter nos soifs. Pour arrêter pour aller aux sources véritables qui vont nous rassasier progressivement. Ça veut pas dire que ça se fait d'un coup. Ça part du petit hochet, du petit bébé qui pense à sa mère quand elle est absente, mais il se sert du petit hochet. Ça devient comme un sacrement. On parle même pas de sacramental, là, c'est une image, là, mais c'est pour dire que tous les petits biens ont une qualité relative de Dieu et qui, en elle, nous dirige toujours un peu plus vers l'infini que dont nous sommes tant assoiffés et que nous cherchons partout. J'aimerais reparler de David, si vous me le permettez.
Allons-y, on vous écoute.
Bon, prenons le roi David, c'est un petit gars qui était bien le fun, il était dans le champ, puis il jouait de la flûte, puis en regardant les étoiles, puis il louait Yahvé. Bon, à un moment donné, on décide de le faire roi. Là, c'est toute une histoire. Il y avait un gros gars de 6 pieds et demi là qui était là. On prend le petit David. Bon, en tout cas, David fut un roi extraordinaire. Il fut un très saint. Il cultivait la justice. Il jugeait bien les gens. Il travaillait pour son peuple. Et sous son royaume, sous son règne, on a vécu une époque fantastique. Maintenant, il est arrivé un problème à David. C'est qu'il regardait Bethsabée, qui prenait sa douche vers 5h15. Le premier soir, c'est pas trop pire, là. Mais c'était érotique, c'était beau, c'est ça. Puis David, dans son ménage, peut-être c'était pas fantastique, là. Des mariages, des fois, par entremise, là, en tout cas. Puis là, à un moment donné, une deuxième fois, troisième fois, pour aller vite, là, il voulait Bethsabée. Il l'avait assez vu, là, qu'il voulait. Seulement qu'elle était mariée. Alors là, voyons un éros qui va se pervertir avec un éthos qui va se pervertir. C'est que David fait tuer son mari pour avoir la femme. Ah ben là, c'est plus de l'éthos. Il y a encore de l'éros, mais là, ça fait dur dans l'éthos. Alors là, David a besoin d'être justifié. Il a besoin d'être remis en ordre. Il pensait que personne ne savait ça, mais tout le peuple.
D'être remis sur la bonne voie, comme vous disiez tout à l'heure.
C'est comme Salomon, il avait 1000 femmes, il était à plein temps. Il avait bien de l'ouvrage des fois, hein, Salomon. Alors, voyez-vous, là, les roses, ça ne peut pas être le but de la vie, ça. Alors, à 1000 femmes, on ne peut pas les aimer beaucoup. Alors, ce qui est arrivé à David, c'est que le peuple savait que David avait fait une faute grave. Mais le peuple n'est pas pour dire à David, son roi, t'as fait une faute grave. Mais Nathan va le faire, par exemple, le prophète. Nathan, c'est un petit prophète, un petit morveux qu'on peut balayer du revers de la main, un prophète. C'est pas quelqu'un de puissant. Il se fiche de tout le monde, il dit toutes sortes de choses, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Alors, mais comment il va dire ça à David? Il dira pas à David, mon cher David, t'es un écœurant, il dira pas ça. L'autre va dire, toi, là, la porte, puis t'es bien chanceux que je te coupe pas la gorge. Parce que le roi avait le droit quasiment de vie de mort. Alors, c'est qu'il fait, le petit Nathan, il compte une petite parabole. Mon cher petit David, bonjour, on joue-tu aux cartes un peu? Comment ça va? Ça va bien? OK, bon, veux-tu que je te conte une petite histoire, je viens d'apprendre. Ah oui, c'est le fun, OK, compte là. Ben là, il y a compte. Il dit, un homme avait 99 brebis, l'autre en avait juste une. Celui qui avait 99 brebis, il fait une grande fête, il va chercher la brebis du gars qui avait une seule brebis, qui l'aimait tellement, qui parlait comme une fille. Toujours nous dit la Bible. Et David, il dit, ce gars-là, c'est un salaud, il mérite la mort, n'a pas de bon sens. Ben, Nathan, il le regarde en voulant dire, ben, c'est peut-être toi. Parce que les femmes, t'en manquais pas. Pourquoi ça t'a pris celle-là? Alors là, David est devenu tout confus. Et il aimait bien Dieu, il jouait de la flûte en regardant les étoiles. Mais là, il avait besoin de miséricorde. Là, il avait besoin d'agapé. Fait que là, il dit, je regrette, j'ai mal fait. Là, Nathan, il dit, bien sûr, Dieu te pardonne. Alors là, David a passé à l'agapé, c'est à la connaissance d'un Dieu qui pardonne. Et là, David a écrit les plus beaux psaumes de ceux qui ont écrit, après avoir expérimenté l'amour qui est au-delà du péché, au-delà de la perversion de l'éthos. C'est l'agapé qui nous guérit l'éthos et qui, notre éthos qui nous fait retrouver l'éros.
Monsieur Truchon, moi, ce qui me chicote un petit peu, c'est la notion de sainteté. On dit que dans le cheminement de la béatitude, Dieu nous destine donc à un état de sainteté. Mais quel attrait est-ce qu'il y aurait pour monsieur, madame, tout le monde à vouloir devenir des saints? Vous savez comme moi que l'image qu'on projette de la vie des saints n'est pas exactement un mode de vie dont on rêve habituellement. On pense à une vie de pauvreté, de souffrance, de privation. Autrement dit, pardon, ça n'a rien en commun avec le gros lot à la loterie, si vous voyez ce que je veux dire.
Et ça, c'est qu'à un moment donné, on arrive au ciel, on a une belle place parce qu'on arrive avec des gros pots de sueur, on a bien souffert, on l'a bien mérité. Alors, le visage de la sainteté, à ce moment-là, c'est pas terrible. La sainteté, c'est l'amour. Tout le monde le veut, même les maringouins vivent jusqu'à un certain point. On veut l'amour, on veut s'unir à un autre être, on veut rester ensemble, surtout quand on est humain. On veut que ça dure tout le temps. Tous les 10, les petits 45 tours, s'ils s'en font encore, d'un bord, c'est marqué « je t'aimerai toujours ». C'est ça, sainteté, c'est de réaliser ça. Et de l'autre bord, c'est marqué « l'amour est mort ». Bon, les deux petits disques. Un petit disque, d'un bord, là, « je t'aimerais toujours », de l'autre bord, « l'amour est mort ». Ben ça, c'est de valeur. Alors, entre les deux disques, c'est très mince, hein, il n'y a pas de morceau, là. Mais il en faudrait, c'est « je t'aime encore », on recommence, on se rebâtit, la miséricorde, c'est plus un amour. Là, ça va être un amour encore plus profond. Alors, pour semer, là, pour atteindre à l'agapé, il faut se pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut croire encore en son amour, il faut pardonner. Et pour ça, il faut être pardonné un jour. Et en fait, c'est ça, être justifié. C'est découvrir que Dieu est comme un soleil qui luit toujours. Le soleil, il luit tout le tour. Il luit sur toutes les fleurs, pas rien que sur les bonnes fleurs. Alors Dieu aime tout le monde sans juger. Alors il faut arriver à dépasser nos fautes pour les guérir, les détruire, c'est-à-dire l'Eucharistie, l'agapé, qui nous fait retrouver l'éthos, puis l'amour des pommes, puis tout.